Chapitre 2. On ne pouvait rien attendre avant 3 ou 4 jours. Dans l'intervalle, j'écrivis à mon frère Henri, qui habitait Paris et qui, plus heureux que moi, avait pu reprendre son métier de ciseleur après la guerre. Nous travaillions autrefois dans le même atelier et notre patron était un des grands bijoutiers de la rue de la Paix. Je priais mon frère, dont j'étais sûr comme de moi-même, de me garder le secret sur cette petite affaire, dont je lui exposais les détails, et je le priais d'examiner la bague, de la peser et de l'évaluer. La réponse d'Henri m'arriva 2 jours après. Il n'avait pas perdu une minute, le brave garçon, connaissant que, depuis que je n'y voyais plus, j'étais devenu, au lieu de patient, d'une impatience extraordinaire. Et mon entourage, loin de chercher à me corriger de ce défaut, l'aggravait au contraire, en s'empressant de satisfaire tous mes désirs. Henri m'écrivait que la bague était en platine, comme je l'avais supposé, pesait 6 grammes et valait donc comme métal 96 francs. Il ajoutait que ma petite enquête l'intéressait et qu'il était à ma disposition s'il se trouvait des démarches à faire à Paris. Les jours et les heures me semblaient longs. Cependant, je travaillais sans relâche à la cassette commandée par Madame Chaudron. Je la mignardais de mon mieux pour qu'elle me servît de recommandation auprès d'autres clientes. Le travail, les mesures à prendre, les ajustages, le poli, réclamaient de moi plus d'attention que d'un voyant, et c'est ainsi que mes pensées se détournaient de la bague et de mon impatience. La lettre d'Henri fit passer un jour. Le troisième et le quatrième jour furent vides. Lucie attendait le facteur avec autant d'anxiété que moi. Le cinquième jour, enfin, des réponses à mon annonce du matin arrivèrent. Une par le premier courrier, 2 par le second courrier. Ah, que ne pouvais-je les lire moi-même, voir ces écritures, deviner quelque chose à l'aspect de ces caractères, de lettres qui les avaient tracées. Mais non, il fallait attendre que Lucie déchiffrât péniblement chaque mot, car elle n'avait pas grande habitude des mauvaises écritures. Je la fîmes d'écrire l'adresse, l'enveloppe, la place du timbre, le papier, et puis, autant que possible, le genre de calligraphie. La première lettre était écrite sur un beau papier de moyen format d'un seul feuillet. Je tâtai le feuillet pour me rendre compte, et en suivant du doigt le bord supérieur, je m'aperçus qu'il n'était pas tout à fait droit. Une bande, qui portait probablement l'adresse ou l'entête, avait été coupée en 3 coups de ciseaux, dont je percevais le raccord. On n'avait pas pu aller d'un seul coup d'un bout à l'autre. « Donc, dis-je à Lucie, on a coupé avec de petits ciseaux et non avec de grands ciseaux de bureau qui auraient détaché la bande d'un seul coup. Ceci nous indiquerait plutôt une femme qu'un homme. »« Il faudrait lire, » dit Lucie. Car je ne lui avais même pas permis de lire un seul mot. J'essayais de tirer mes petites déductions dans l'ordre où je l'aurais fait si j'avais pu voir. Évidemment, la coupure du papier m'avait frappé tout de suite. Je repliai la lettre dans ses plis et je remarquai ceci. Elle n'était pas pliée au milieu, mais un peu au-dessus du milieu, ce qui prouvait que la bande supérieure avait été enlevée après le pliage de la lettre. On avait d'abord plié par le milieu la feuille complète, puis on avait songé à enlever la bande de l'adresse, on avait coupé avec de petits ciseaux, puis on avait replié dans le premier pli. Il m'était permis d'en déduire de nouveau une femme impulsive et rapide plutôt qu'un homme d'affaires surtout. Je communiquai ma remarque à Lucie, qui me répondit « Tout ça est possible, mais laisse-moi donc lire. » Voici la lettre telle que Lucie me l'a lue. « Monsieur, la bague WT 1888 est à moi. Veuillez l'envoyer contre remboursement de 500 francs de récompense à l'adresse de messieurs Lenoyer, bijoutier, 55 bis rue de la Paix. Ces messieurs sont prévenus. Avec mes remerciements anticipés, X, Y, Z. » « Il n'y a pas de faute d'orthographe, n'est-ce pas ? » dis-je à ma femme. « Non, autant que je m'y connais, il faut bien un E à récompense et un A à anticiper, je crois. » « Parfaitement, le style est correct, l'orthographe doit l'être aussi. Cette dame est prudente, elle a évité tous les adjectifs qui devaient être au féminin. »« Que vas-tu faire ? » demanda Lucie avec impatience. Rien du tout. Il faut attendre, il faut réfléchir. D'abord, cette dame suppose que la bague est intacte. Elle offre 500 francs de récompense, donc la bague avec ses pierres en valait bien 5 000. 10%, c'est le tarif ordinaire des récompenses honnêtes. La première chose, c'est de faire savoir à cette dame que les chatons sont vides et que la bague ne vaut plus 100 francs. C'est vrai, s'exclama Lucie déçue. Moi qui voyais déjà 250 francs dans ma bourse et 250 francs au carnet d'épargne de la petite Mariette, et j'allais te complimenter sur tes talents de détective. Jusqu'à 4 heures, l'heure du second courrier, je tourmentais Lucie de questions sur tous les détails de la lettre numéro 1, mais alors j'eus d'autres sujets de réflexion puisque le facteur nous apporta les lettres numéro 2 et numéro 3. Ma bonne Lucie n'eut guère de temps pour faire son ménage ce jour-là, car je la harcelais sur l'analyse des 3 lettres, dont un détail négligé pouvait avoir son importance. Ma pauvre petite femme se donnait tant de mal pour me satisfaire qu'elle ne montra même ni ennui ni impatience et qu'elle entra dans ma méthode, allant au-devant de mes questions. Le papier de la lettre numéro 2 est un papier ordinaire et le parfum est ordinaire aussi. C'est du papier réglé. Donc la personne n'a pas beaucoup l'habitude d'écrire, comme moi. D'ailleurs, la lettre est signée, on verra bien. « La lettre est signée, m'écriai-je, et tu ne le disais pas tout de suite ?»« J'ai cru bien faire, » murmura Lucie d'un ton décontenancé. « Pour la lettre numéro 1, tu ne m'as pas permis de la lire avant d'avoir fait tes remarques sur le papier et l'écriture. »« C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, lis. » La lettre numéro 2 était conçue en ces termes. « Monsieur Lecamp, j'ai été bien étonné de voir dans le matin... aux annonces que je lis après le petit déjeuner, quand monsieur a fini avec le journal et que madame le lit pendant que je la coiffe. Tu vois, c'est une femme de chambre, s'interrompit Lucie. Oui, oui, ça se voit à l'œil nu. Continue. Pendant que je la coiffe, que vous avez connaissance de la bague de madame, qui est perdue depuis 3 semaines et qu'on a cherchée partout, et même on me soupçonne que c'est moi qui me l'ai appropriée. C'est une très bonne place, mais je la perdrai si la bague ne se retrouve pas, parce que madame y tient sans y tenir, cette bague, qu'elle dit qu'elle lui a toujours porté malchance. Monsieur est colérique, étant un rouquin, mais il prend la chose mieux que madame. Si ce n'était que lui, je garderais ma place. Ayez l'obligeance de me dire où est la bague et ce qu'il faut vous payer pour la ravoir. « Je donnerai ce que je pourrai, et madame ou monsieur vous récompensera certainement. » Adressez la réponse à mademoiselle Alphonsine Drouin, chez monsieur Lucien Choux, 95 Terre, boulevard Haussmann, Paris. Je mets un timbre pour la réponse. Avec mes assurances de considération, Alphonsine Drouin. Cette lettre nous fit rire tous les deux, et nous la trouvâmes dans son style incorrect, honnête et naïve. « Je ne te questionne pas sur l'orthographe, » dis-je à Lucie. « C'est superflu, je la devine. Lis-moi vite la lettre numéro 3. Ce n'est peut-être pas une réponse à mon annonce. C'est peut-être une lettre d'Henri ou de ta cousine Fanny. »« Non, non, c'est une écriture que je ne connais pas. » J'entendis le bruit du petit coupe-papier qui ouvrait une enveloppe épaisse. « C'est du carton, » s'exclama Lucie. « Voici des gens qui se moquent de la crise du papier. Papier, billet, crème. Papier à la cuve, bord irrégulier, tâtant de mes doigts, ce feuillet si raide que le pli du milieu était presque une cassure. Il y a l'adresse imprimée dans le haut, en jolis caractères noirs très fins et brillants. Ah, voici du drôle, la même adresse que la femme de chambre, 95 Terre, boulevard Haussmann. Ce sera le patron. » « Ou la patronne ?» fit Lucie. Non, la patronne a écrit la lettre numéro 1. Elle a pris le papier à lettre de son mari et le mari a pris le papier de sa femme car ce papier épais, chic et pas commode n'est pas du papier pour homme. Que dit la lettre ? Lucie me commença la lecture de la lettre numéro 3. « Veuillez, disait cette lettre sur papier chic pour dame, envoyez renseignement sur bague WT 1888 à l'adresse LC aux soins de Madame Chambard, concierge de l'immeuble, 95 Terre, boulevard Haussmann, Paris. Inclus timbre pour réponse. Si les renseignements intéressent, il y aura forte récompense. Nous serons riches pour finir, dit Lucie en riant. Pas de signature, naturellement, dis-je, mais nous savons par Mademoiselle Alphonsine que elle sait, c'est Monsieur Lucien Chou. Voilà donc en un seul jour Monsieur, Madame et la femme de chambre qui réclament la bague. Tout cela est logique, mais ça ne présente aucun intérêt. Car ce qu'il faudrait connaître, c'est la personne qui a enlevé la bague et qui a vidé les trois chatons. Je m'interrompis sur ce mot, frappé d'une idée assez désagréable et qui me venait pour la première fois. Je ne la communiquai pas à Lucie, crainte de l'inquiéter, mais je me disais « Si on me demande compte des trois pierres, comment ferais-je pour prouver que les chatons étaient vides quand la bague est tombée entre mes mains ?» Madame Chaudron en témoignera, mais cela suffira-t-il? Nous aurons des ennuis. Et, ma foi, j'ai peut-être déclenché une avalanche de complications qui va rouler sur nous. Vas-tu répondre? J'ai mis du papier à lettres sur la machine. Pas encore, répondis-je. La nuit porte conseil. C'est pas tout d'avoir l'adresse des volets, il faudrait savoir quelque chose du voleur. Et puis, tous ces trois-là, quand ils sauront que la bague ne vaut plus que 96 francs, ils vont faire du raffut. Laisse-moi réfléchir. Attendons un jour. Lucie ne me cacha pas son impatience. Elle me prenait, je crois, pour une espèce de magicien qui n'avait qu'un coup de baguette à donner pour que tout s'éclaircît. Le lendemain, comme la nuit n'avait pas porté conseil, je renvoyai encore de répondre aux trois lettres et mes perplexités ne furent pas diminuées par l'arrivée d'une lettre numéro 4 que le facteur nous apporta à midi en me faisant remarquer que j'avais beaucoup de courriers ces jours-ci. Il était curieux et il aurait volontiers bavardé un moment, mais Lucie coupa court. Je la devinais palpitante. « Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci » murmurait-elle en coupant l'enveloppe, car je lui avais appris à ne pas déchirer une enveloppe avec le bout du doigt, comme font les trois quarts des femmes. Elle lut tout de suite, entremêlant le texte de la lettre de ses réflexions. C'est une écriture grossière, comme si on avait écrit avec un bout d'allumette et de l'encre vaseuse. Il y a dans le coin l'adresse imprimée, Café des Commerces Réunis, Impasse Sondriot, rue des Mathurins. « Nous sommes toujours dans le voisinage du boulevard Haussmann. C'est curieux, » remarqua ma femme, qui, ayant été trottin de couturière, connaissait Paris comme sa poche. « Mais je continue, ou plutôt je commence. « Monsieur, la bague WT 1888, j'en ai eu connaissance et je l'ai tenue dans mes doigts il y a 3 semaines. J'ai des choses à dire là-dessus. Je les dirai contre bonne récompense. » Vous pouvez me fixer un rendez-vous, mais je ne parlerai pas à moins de 500 francs. Des personnes auront intérêt à ce que je parle, d'autres auront intérêt à ce que je me taise. Pour preuve que je connais la bague, elle a 3 pierres sur une seule ligne, 2 gros brillants et, entre les deux, une pierre opaque d'un brun vert avec une marque blanche étroite au centre, comme l'œil d'un chat qui vous regarde la nuit. « Je le savais, » m'exclamai-je. « Tu vois, Lucie, que cette pierre est bien l'œil de chat. Tiens, ça m'encourage. Mais tu n'as pas fini de lire. »« Il n'y a plus grand-chose. Envoyez la réponse ou venez vous-même. Demandez le plongeur du Café des Commerces Réunis. C'est tout. »« C'est tout et c'est assez, » fis-je. « J'en ai de la besogne sur la planche à faire plaquer tout ça. » Ce monsieur des commerces réunis, qui écrit avec un cure-dent pour pouvoir ensuite nier son écriture, ce monsieur nous mènera tout droit au voleur si nous savons nous y prendre. Ah, Lucie, Lucie, ce que la vie est devenue intéressante! Mais tu sais, il faut manier ça délicatement, comme dans la tranchée quand je démontais les fusées d'obus. Il ne faudrait pas que ça m'éclate dans la main. Et, de nouveau, au grand désespoir de ma femme, je décidai d'attendre encore une fois que la nuit eût porté conseil. Le lendemain, vers 10 heures, comme j'étais à mon établi et Lucie occupée non loin de moi à son ménage, j'entendis un pas traverser la cour. C'était un pas hésitant qui s'arrêta comme d'une personne qui se demande si elle est à la bonne adresse. On frappa à la porte. Jamais je ne demande à Lucie « Qui est-ce » J'aime mieux m'amuser à deviner. « Monsieur François Lacan, c'est bien ici ?» fit une voix masculine pas très sûre. « Oui, c'est ici, » répondis-je en me tournant vers le visiteur. « Ah, bien, très bien. Vous avez mis une annonce dans Le Matin concernant une bague. Cette bague est à moi, ou plutôt à ma femme. Je viens la réclamer contre récompense et frais, bien entendu. Je suis Monsieur Lucien Chou, j'habite boulevard Haussmann, 95 Terre à Paris. Voici ma carte. « Lucie, dis-je, veuille prendre la carte de monsieur. Vous suivez de bien près votre lettre, monsieur. » « Mal. » Le mot ne fut pas achevé. L'intonation indiquée, plus que la surprise, c'était une sorte de question. « Ma lettre ? Quelle lettre ?» Voilà ce que signifiait le mot interrompu. Mais le visiteur toussa et reprit très vite « Oui, oui, ma lettre, mais j'ai préféré venir moi-même pour avoir une réponse tout de suite. » Il y eut un moment de silence. En moi-même, je pensais « Ne perdons pas le fil !» car il me semblait bien que je tenais le bout d'un fil. Le visiteur reprit « Vous voudrez donc bien, n'est-ce pas, me remettre cette bague ? Je donne 10 francs de récompense et vos frais d'annonce. »« 10 francs ? » répétai-je songeur. « Vous ne voudriez pas ?» D'ailleurs, monsieur, la bague a été envoyée à Paris pour expertise. Il m'est impossible de vous la montrer aujourd'hui. J'eus bien peur que Lucie ne m'interrompît pour me rappeler que la bague était revenue de Paris, car Lucie a un grand respect de la vérité. Quoi qu'en somme, ce que je disais là était vrai. C'est ennuyeux, fit le visiteur. Je me suis dérangé pour rien. Quand faut-il revenir ? « Voyons, dis-je aussi lentement que je pus, afin de prendre le temps de réfléchir. Nous sommes aujourd'hui samedi. Le temps d'écrire à Paris, de recevoir la réponse. »« La bague !» fit M. Lucien Chou avec vivacité. « Oui, bien sûr, la bague. Disons mardi. Mardi dans l'après-midi. À 3 heures, si vous voulez. »« Que c'est long, tout ça » s'écria-t-il. « Je ne pourrai pas aller prendre la bague à Paris. » « Chez qui est-elle ? » Attendez une minute, fis-je, saisissant l'occasion. Je ne décide jamais rien sans consulter ma femme. Nous nous retirons un instant pour causer. En me levant et en me dirigeant vers ma femme, j'eus sans doute un mouvement gauche, car M. Lucien Chou s'exclama « Vous avez de mauvais yeux ?»« Tout ce qu'il y a de plus mauvais, fis-je en riant. » « Vous n'y voyez pas ? » ?»« Pas du tout. » « Ah » prononça-t-il d'un ton de compassion, « seriez-vous un de ces malheureux aveugles de guerre ?»« Parfaitement, » dis-je avec autant de froideur que possible, car je n'aimais pas beaucoup cette pitié. « Un de ceux qui ont offert leurs yeux à la patrie, » éjacula-t-il comme s'il récitait. « Ah non, par exemple, je ne les ai pas offerts, on me les a pris. Mais laissons ces clichés, je vais causer un instant avec ma femme. Veuillez vous asseoir, monsieur Chou. » Et quand Lucie eut fermé sur nous deux la porte de notre chambre, je la tirai dans le fond et je lui dis à voix très basse « Il n'est pas plus chou que moi. » « Comment le sais-tu ? » « J'ai 2 preuves et j'attends la 3e. C'est toi qui vas me la donner. Décris-moi le personnage. » « Il est petit, il est jeune. » Ça, je le sais, au timbre de sa voix et à la hauteur d'où elle part. Mais continue. Il est mince, bien habillé, même élégant. Une jolie cravate, mais pas d'épingle. Il a les yeux bruns et les cheveux presque noirs. Ce n'est pas une perruque ? Ah non, on voit très bien où les cheveux commencent. Ils sont coupés très courts près des oreilles. Bon, dis-je, j'ai ma 3e preuve. Écoute bien, ma Lucie, et prépare-toi à admirer mes facultés de raisonnement. Lucie m'assura qu'elle les admirait déjà, et je continuai. Tu te souviens que mademoiselle Alphonsine, dans sa lettre, nous disait « Monsieur est colérique, étant un rouquin. » « C'est vrai, j'avais oublié ce détail, » s'exclama Lucie. « Parlons bas, très bas, car je me trompe fort, où ce monsieur a l'oreille collée à notre porte. J'ai entendu son pas s'approcher doucement. Faut-il ouvrir tout à coup ?» demanda Lucie. « Garde-t'en, nous ne devons pas le démasquer trop vite. » Vraiment, tout ceci est très amusant, fis-je avec une satisfaction de vivre que je ne connaissais plus depuis ma blessure. Veux-tu mes deux autres preuves, Lucie ?
Certainement. Dépêche-toi.
As-tu remarqué sa surprise quand je lui ai dit qu'il suivait de près sa lettre ? J'en conclus qu'il n'a pas écrit de lettre. La lettre de M. Lucien Chou n'est pas de lui. Donc, il n'est pas M. Lucien Chou.
Mais si M. Lucien Chou n'était pas M. Lucien Chou, fit observer Lucie assez judicieusement.
Oui, mais il y a deux autres lettres, celle de la dame et celle de la femme de chambre, qui confirment celle du monsieur. Je passe à la troisième preuve. Ce brave jeune homme aux cheveux noirs, qui devrait les avoir rouges, offre 10 francs de récompense. Madame Chou en offrait 500. Qu'est-ce que tu en conclurais, Lucie ?
Dis-moi plutôt ce que tu en conclus toi-même.
Eh bien, pour Madame XYZ, qui est Madame Lucien Chou, la bague vaut 5 000 francs avec les pierres. Pour le jeune anonyme qui a son oreille à la porte, la bague vaut à peu près 100 francs, la valeur du platine seul. Donc, il sait que les chatons sont vides. Les propriétaires de la bague ne s'en doutent pas. J'en conclus que le jeune homme en sait plus long que Monsieur Lucien Chou. Donc, de nouveau, il ne peut être Monsieur Lucien Chou.
« Alors, que vas-tu faire ?» demanda Lucie dans un chuchotement à peine perceptible.
« Laissez la bague où elle est, dans le tiroir du secrétaire, qu'il faudra garder bien fermé. Renvoyez le jeune homme à mardi, comme je l'ai dit, et, dans l'intervalle, dressez mes batteries. Faisons un peu de bruit en allant vers la porte pour que l'écouteur ait le temps de s'éloigner. Si tu as quelque chose à me dire pendant qu'il est encore là, viens bien en face de moi et fais semblant d'arranger ma cravate. Tu pourras ainsi me glisser un mot. Et puis, quoi qu'il arrive, ne me contredis pas. Parle le moins possible. Quand tu ouvriras la porte, tu me diras exactement où le jeune homme se trouve. » Lucie ouvrit la porte lentement, puis me chuchota. « Il est près de ton établi. Il ne touche rien. Il a les mains derrière le dos. » Je m'avançai vers lui et je dis, comme pour causer simplement, « Vous avez sans doute fait la guerre, monsieur. »«
Oui, » répondit-il avec quelque hésitation.
« En première ligne ?»«
Oui, quelque temps. »«
Dans la tranchée ?»«
Oui, j'ai été blessé assez vite. » »«
La bonne blessure, » fis-je en riant, « l'hôpital et puis la convalo jusqu'à l'armistice. » Si j'ose demander, où était cette blessure ?
J'ai eu une oreille à peu près emportée, fit le pseudo-chou d'un ton assez solennel.
Je pensais bien que vous aviez été dans la tranchée, poursuivis-je.
Pourquoi ça ? Demanda-t-il vivement.
Parce que, dans la tranchée, nous avons tous bricolé des petites machines, des bagues en aluminium, des souvenirs. Les petites limes, les petites pinces, je vois que vous vous intéressez à mes petits outils sur mon établi.
Vous voyez, s'écria-t-il, vous disiez être aveugle.
Il y a bien des façons de voir, j'ai la mienne. Mais pour revenir à notre affaire, si quelque chose survenait d'ici à mardi, où pourrait-on vous atteindre ? Vous rentrerez sans doute chez vous. Un télégramme adressé boulevard Haussmann, 95 Terre, vous trouverez...
« Non, non, » fit-il vivement, « je ne rentre pas à Paris, j'ai des affaires dans cette région. J'irai voir des clients aujourd'hui, demain, lundi. »«
Dans ce cas, dis-je, permettez-moi de vous recommander l'hôtel du Vaubleu pour y loger. Vous y serez parfaitement. C'est du reste le seul hôtel convenable à Garla. »«
Je verrai, » répondit mon interlocuteur après un intervalle assez marqué.
Il se peut que j'aille à Limours ou à Longjumeau, suivant mes affaires.
Un silence suivit. Je n'avais plus rien à dire. Lui non plus.
Donc, à mardi 3 heures, fit Lucie, dont le visiteur n'avait pas encore entendu un mot.
Ah, mon pauvre François, ta cravate est dégrafée. Tu vas la perdre.
Elle s'approcha de moi et, me passant ses bras autour du cou pour arranger par derrière la pince à cravate, elle me chuchota dans un souffle.
« Parle-lui encore du Vaubleu !»
Je n'eus pas le temps de le faire, car le visiteur ouvrait la porte pour s'en aller.
« Très bien, c'est entendu. Au revoir, monsieur et madame !»